RFI.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, bien entendu, et comme chaque jour, pour vous parler de football et vous tenir compagnie, vous divertir et vous informer. Dans l'émission du jour, eh bien, nous nous attacherons à ce buteur. Il est le meilleur de tous les temps en Espagne. La pulga, la puce du Barça. Lionel Messi, bien sûr, le numéro 10 des Catalans qui aligne les records personnels comme en club. Est-on devenu un peu trop indifférent d'ailleurs à l'artiste magistral qu'est Lionel Messi, ballon au pied? L'admire-t-on encore assez alors que nous avons la chance de le voir jouer chaque semaine en Espagne? Nous irons voir d'ailleurs si l'on s'émerveille encore. Le Barça et son Messi en tête, donc, et toujours de la Liga, tranquillement, le champion d'hiver, comme on dit là-bas, continue à caracoler en tête, alors que le Real, son meilleur frère ennemi, a toujours du mal en championnat, avec son effectif notamment où se multiplient les blessures et les blessés. L'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann est donc là pour départager les deux clubs. Un club centenaire sur le continent africain, l'Espérance de Tunis, l'un des clubs les plus aimés, qui compte 3 millions de supporters et un très beau palmarès, 28 championnats et 3 Ligues des Champions. Nous allons leur souhaiter un très bon anniversaire tous ensemble. Et puis la Coupe du Monde au Qatar, à 32 ou à 48 équipes? La question est encore posée. Il y a un brainstorming de la FIFA, des cadres de la FIFA ces jours-ci à Marrakech. Nous en parlerons parce qu'en ligne de mire, il y a bien sûr une élection, peut-être une réélection à la tête de la Fédération Internationale de Football en juin prochain. Et justement, pour parler de l'Espérance, eh bien, il y a un supporter, il a ce club dans son cœur.
Admirateur.
Un admirateur, oui, plus qu'un supporter, c'est plus vrai.
Supporter, c'est réservé à un autre club.
Patrick Julliard, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
À vos côtés, Karine Galli, bonjour Karine.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis Gilles Verdez qui est là aussi, bonjour Gilles.
Bonjour.
Alejandro Valente, hola.
Hola, bonjour.
Bonjour. On va parler Lionel Messi, on vous a appelé, les auditeurs vous connaissent bien sûr. Et puis, eh bien, nous allons nous intéresser à tout ce qui est donc football et aller rejoindre François David d'ici quelques instants parce que Radio Foot, c'est parti. Lays it back to Suarez, Leo Messi! Goal number 400 in La Liga for Leo Messi!
Es el gol 400 en La Liga de Leo Messi.
Suarez, Messi, 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 mais oui.
400 La Liga goals and Messi makes it 2-0.
400, señores! Lionel, 400!
Un 400e but pour la Pulga inscrit au Camp Nou sur une belle illustration qui est le travail du FC Barcelone, hein, marqué sur une action collective de passes entre Suarez, Coutinho et Messi. Messi, mais oui, 400 buts marqués en 435 matchs de Liga, cela fait 0,91 buts par match sous le même maillot, donc celui des Blaugrana qu'il porte depuis 2004, Lionel Messi, enfin 2004 professionnellement, puisqu'avant c'est un enfant de la Masia et il le portait. Et déjà son premier but, il l'a inscrit le 1er mai 2005. Alors évidemment, par comparaison, notons que Cristiano Ronaldo a lui inscrit dans sa carrière 311 buts en 292 matchs. Alors 407 en 507 matchs, c'est le total, mais pour ce qui est de l'Espagne, puisque comparons les deux championnats et surtout ces deux grands champions. En tout cas, Lionel Messi, le joueur aux 5 ballons d'or, aux 9 championnats d'Espagne, aux 4 ligues des champions. L'extraterrestre, donc, continue d'écrire l'histoire du Barça et son histoire personnelle en Liga, dans la planète football. Est-ce que c'est un événement ou un non-événement, finalement, ce 400e but, Gilles Verdez?
Je suis assez d'accord avec vos questions du début. Est-ce qu'on banalise pas un peu en ce moment ce que fait Messi?
Trop.
Alors, c'est un extraterrestre. Il restera dans l'histoire du football comme l'un des 3 meilleurs joueurs. Moi, je l'adore. Il y a juste un petit souci, c'est que la Ligue des Champions, ça fait un petit moment. La Coupe du Monde, ce sera sans doute jamais. Et donc là, on commence à se dire que finalement, c'est réservé aux admirateurs du championnat d'Espagne. Donc, le Messi extraterrestre, les 5 ballons d'or, voilà, il y en aura peut-être pas 7, il y aura peut-être pas de Coupe du Monde, il y aura peut-être pas encore la Ligue des Champions. C'est ça qui nous manque, quoi. On revoit un Messi un peu quotidien. Et Messi, il est pas quotidien, normalement.
Karine.
Alors, on peut pas banaliser le Lionel Messi, et je pense pas que nous on le banalise, parce que surtout on n'a pas la chance d'être abonné au Camp Nou et de le voir tous les 15 jours en live. Moi, à chaque fois que j'ai vu Lionel Messi en live, je m'en souviens très bien. Je sais qu'à chaque fois il a pas marqué, ce qui est quand même rarissime. Et je rêve évidemment dans ma vie de voir un jour Lionel Messi marquer un but.
C'est parce qu'il vous regardait dans les tribunes. Hein.
Non, malheureusement j'ai fait 3 fois le Barça en live et les 3 fois le Lionel Messi n'a pas
ça, c'est
marqué.
Pas de bol, hein.
C'est vraiment pas
ce qu'ils vous cherchaient dans les tribunes, parce que nous on est allé au Camp Nou et nous on l'a vu marquer avec l'équipe de Radio.
Malheureusement ça n'a pas été le cas ces 3 fois là. Après, ce qui est vrai effectivement, c'est qu'au niveau du Ballon d'Or, sur les dernières battles entre Ronaldo et Messi, c'est Ronaldo qui avait rattrapé toute son avance, et finalement Lionel Messi,
les battles, les batailles, les duels,
voilà. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il l'a plus gagné. La Coupe du Monde, on est d'accord, et surtout celle de 2018, elle a été terrible au niveau de ce qu'il a dégagé. C'est un joueur qui était seul, qui était triste, qui était perdu. Mais après, je trouve qu'il est toujours exceptionnel. Et le Barça est un candidat cette année à la victoire finale en Ligue des Champions, comme d'autres équipes. Mais en tout cas, le Barça fait partie des favoris.
Patrick Juillard, non-événement, événement ?
Non, c'est en fait faire arriver comme ça à chaque fois un train à l'heure, c'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire un train qui arrive à l'heure, normalement pour un journaliste, c'est un non-événement. Mais qu'il arrive à l'heure comme ça depuis 14 ans, avec cette régularité et avec ce niveau d'excellence, quand même, on peut que s'incliner. Donc, je dirais qu'il banalise l'exceptionnel, quoi. Donc, c'est oui et non en même temps. C'est très macronien comme réponse, mais je peux pas faire mieux.
Alejandro Valente, alors pour vous, évidemment, ça sera pas un non-événement, mais on le disait dans le Café des Sports vendredi que ces deux joueurs, on a l'impression que l'âge et même la fatigue physique et morale n'a pas d'emprise. Et lui, comme Cristiano Ronaldo, mais en l'occurrence Messi l'an dernier, reste meilleur buteur d'Europe.
Oui, bah disons que moi,
du monde, hein, avec 41
j'ai
buts,
mis un point
si
d'honneur à regarder quasiment tous les matchs de Messi, que ce soit avec le Barça, en championnat, Ligue des Champions, avec l'Argentine, etc. Donc j'ai
pour
un
pas
peu
vous lasser.
Ce privilège de l'avoir vu grandir, parce que c'est vrai que le Messi qu'on a connu il y a 10 ans ou 12 ans n'est pas du tout le même joueur qu'aujourd'hui. On voit comment il a progressé physiquement, comment sa vision du jeu s'est construite, comment collectivement il a pris de plus en plus l'emprise sur le jeu de son équipe et combien cette emprise est intelligente et très bien gérée. On voit aussi comment Messi a appris à écouter son corps. C'est un joueur qui s'est blessé beaucoup quand il était jeune et qui a pris les mesures diététiques et les accompagnateurs nécessaires pour ne plus connaître ses soucis. Et on sent dans un match quand il arrête d'accélérer, quand il arrête de faire des efforts, parce qu'il sent qu'il faut gérer. C'est assez admirable de voir quelle maîtrise a-t-il aujourd'hui de son corps et comment il gère ça.
Justement, les chiffres de la saison actuelle en Liga illustrent très bien ce que dit Alejandro, c'est-à-dire que Messi est à la fois en tête du classement des buteurs avec 17 buts et en tête du classement des passeurs avec 10 passes décisives, loin devant ses poursuivants. Ça montre vraiment que c'est devenu un joueur des 30 derniers mètres.
On va y venir.
Plus qu'avant, peut-être, où il faisait peut-être plus des longues courses. C'est un peu comme Ronaldo, cette évolution.
On va y venir, parce que c'est ce que disait Valverde notamment, mais je voudrais qu'on aille en Espagne, du côté de Barcelone, justement. François David, bonjour. Hola.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Moi, je l'ai vu marquer Messi, hein, plusieurs fois.
Vous êtes tous les 15 jours au Camp Nou, contrairement à nous.
Ouais.
Mais François David, justement, est-ce qu'en Espagne, ce record a occupé une grande place dimanche soir, lundi ? Est-ce qu'on lui a remis un trophée, une médaille, quelque chose de symbolique à Messi pour ce énième record ?
Non, mais en fait, ça a fait la une, effectivement, dans toute la presse catalane, parce que, bon, Messi, là, est plus qu'un dieu, c'est le meilleur joueur de l'histoire du club. Mais dans la presse de Madrid, on parlait plus des problèmes de Solari avec Isco, ou des choses comme ça, bon, quelque chose de classique. Maintenant, je pense qu'effectivement, on a banalisé ce que peut faire Messi tout le week-end, parce que ce qu'il fait, ce qu'il a fait depuis le début de saison, il le fait depuis 14 ans, comme le disait Alejandro. Le problème, et là, je rejoins Gilles, c'est que maintenant, on l'attend en Ligue des Champions à partir de mars, dans les matchs vraiment qui comptent beaucoup. Faut pas oublier qu'il a quand même 4 Ligues des Champions. Il a quand même gagné, il a quand même été décisif. Mais c'est vrai que depuis 3 ans, le Barça est éliminé en quart de finale tous les ans. Alors c'est pour ça qu'ils ont fait cette année une nouvelle équipe pour armer encore plus le Barça dans les moments compliqués. Ils l'ont réservé la semaine dernière en Coupe du Roi contre les Levante. Il avait même pas fait le déplacement, chose qui était invraisemblable avant. Hier, il était, et là je rejoins Alejandro, c'est qu'il était hier à Venise, il a fait un voyage express pour aller voir son nutritionniste. Il prend effectivement beaucoup de soins à bien manger. Il était adepte des pizzas, des asados, de la viande grillée, chose qui est interdite pour les footballeurs de très haut niveau. Mais Messi, ça reste Messi. On regarde le Barça pour voir le Messi. Mais on attend l'étincelle qui va arriver, ce moment de magie, et ça, personne ne pourra l'enlever à lui.
Quelle aura a-t-il toujours, alors je dirais, autour du Camp Nou, c'est-à-dire éloignons-nous un peu de ce lieu où il joue depuis toujours, mais quelle aura a-t-il en Espagne aujourd'hui?
Il est considéré comme le
meilleur joueur du monde. On va au Camp Nou juste pour le voir, toujours?
Le Camp Nou, quand il y a eu la finale de la Copa Libertadores au Stade Santiago Bernabéu et que lui, il avait fait le déplacement pour voir ce match-là entre River et Boca, tous les personnes qui étaient devant lui ne regardaient même pas le match, ils voulaient prendre une photo avec lui, le filmer en vidéo, ça reste l'icône mondiale et une icône en plus qui...
Argentin en plus.
Le fait qu'on n'entend pas beaucoup parler de lui, son comportement, il est quand même assez exemplaire depuis maintenant 15 ans. Et puis ça reste la référence, on parle toujours du nouveau Messi, est-ce qu'il pourra atteindre Messi, surtout là depuis le départ de Ronaldo, c'est Messi maintenant et les autres.
Mmh. Alejandro ?
Oui, je pense que ce qu'est souligné François est vrai, beaucoup de gens vont au Camp Nou pour voir Messi, comme beaucoup de gens allaient à Santiago Bernabéu pour voir Cristiano Ronaldo. Et ce n'est pas un hasard si cette année, les chiffres de fréquentation de Santiago Bernabéu ont chuté de façon assez importante. Et je pense qu'à Barcelone, ils sont conscients aussi que le jour où Messi ne sera plus là, ça risque de se passer la même chose du côté du Barça et qu'il va falloir essayer de trouver, ce sera pas évident, des joueurs capables de compenser
comme ça.
Cette espèce de fascination que ces joueurs-là exercent.
Oui, on va pas voir seulement un match de football, on va voir aussi un artiste balle au pied, Gilles.
Là où c'est très fort, parce que là on analyse l'histoire immédiate du football, mais aujourd'hui le football il est vibrionnant, c'est-à-dire qu'il y a des mercatos, des marchés des transferts, des joueurs qui bougent, même Ronaldo a rebougé là, Messi lui, il incarnera à jamais le Barça, c'est vrai, c'est le meilleur joueur, bon il y a eu Cruyff, il y en a eu d'autres, mais le Barça, c'est lui, ce Barça-là, qui a donné une identité, une nouvelle identité au jeu de football avec Guardiola et lui, à jamais il restera ce joueur-là, peut-être qu'il restera. Peut-être qu'il prendra sa retraite au Barça. Et ça, on voit plus ça. Donc, dans 10 ans, dans 20 ans, on dira il a marqué l'histoire du Barça comme Cruyff, l'Ajax, Pelé, Santos, Di Stefano, le Real ou d'autres. Et ça, il y en a très peu. Je disais, ou d'autres, les autres, voilà. Il y en a très, très peu. Et ça, c'est très fort.
Surtout dans le football actuel.
Oui, c'est d'autant plus pour ça qu'il est unique. Il y en a beaucoup qui, par exemple, aimeraient le voir avec un autre maillot. Moi, c'est tout l'inverse. Moi, j'ai vraiment envie qu'il finisse au Barça. On a l'impression que ça sera ça. Ou en tout cas, au niveau de l'Europe, il n'ira pas jouer dans un autre club. Et moi, ça me rappelle voilà le football un peu d'antan. Oui, j'ai adoré que Totti fasse toute sa carrière à la Roma et j'adorerais encore plus Messi parce qu'il aura fait toute sa carrière au Barça. Alors que
identifier un club et un joueur et un club.
Parce que effectivement aujourd'hui, c'est impossible que ça arrive ou c'est quasiment impossible. Et donc lui, il nous ramènera à quelque chose de superbe. Il y a aussi des gens qui pensent l'exact inverse et qui auraient voulu le voir dans un autre championnat, etc.
Mais il faut savoir, Karine, que Messi a un lien très particulier avec Barcelone parce qu'il est arrivé enfant alors qu'il avait des gros problèmes.
Il a été aidé avec les piqûres, etc.
Voilà, sa croissance. Et donc, il y a... Barcelone l'a un peu sauvé à un moment où la situation était compliquée pour lui, et je pense qu'il y a aussi une forme de reconnaissance aussi qui opère, même si évidemment Barcelone a fait les nécessaires pour s'aligner au point de vue financier avec les autres clubs qui pouvaient prétendre au service de Messi.
Alors, vous parliez de l'amplitude du joueur, et effectivement, c'est réducteur sans doute de le réduire au rôle de buteur. Eh bien, écoutons alors son énième entraîneur à Barcelone, mais qu'il admire autant que les prédécesseurs. Et en l'occurrence, il s'agit de Ernesto Valverde, qui tranquillement d'ailleurs le voit arriver jusqu'à 500 buts.
La sensation que
j'imagine qu'il en marquera 500. 400 buts, c'est déjà incroyable. C'est facile à dire, mais vous savez à quel point c'est difficile de les inscrire. Messi est un joueur extraordinaire. Ce n'est pas seulement un buteur, c'est un joueur clé. Il produit du jeu, il délivre des passes décisives, il donne tout pour l'équipe.
Voilà ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'amplitude du jeu en plus, ce jeu qui s'est amélioré, qui a évolué de Messi et des pieds de Messi.
Amélioré, je sais pas, mais il est devenu plus clinique et plus efficace au fil des ans, peut-être parce qu'il sait se gérer, peut-être parce qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans, chacun vieillit, et qu'il est devenu, comme je disais, plus un joueur des 30 derniers mètres, et c'est aussi pour ça qu'au dernier Mercato, le Barça a pas mal renforcé le milieu de terrain, pour éviter qu'il y ait un trou dans l'équipe entre la défense et l'attaque. Et qu'ils ont acheté des joueurs. Ils parlent encore d'en acheter, puisqu'on parle de Rabiot, mais c'est pas la seule piste du Barça au milieu. Et en fait, depuis la claque que le Barça a subie contre l'AS Rome l'an dernier en Ligue des Champions, qui était quand même une vraie,
match retour
un
à Rome.
Vrai camouflet par rapport à l'image du club, le Barça a beaucoup marqué, et je crois que depuis cette date, sauf erreur de ma part, il n'y a pas un match du Barça qui s'est terminé sans but de leur part, ce qui est quand même pas mal. Ils en sont à 100 buts, 2x50 depuis ce match-là, en moins d'un an, ce qui est quand même énorme. Et puis en championnat, l'attaque du Barça, 53 buts. Si vous voulez, c'est 22 buts de plus que les attaques qui suivent le Barça au classement des attaques de Liga. Donc c'est une vraie emprise, même si dans le jeu, je trouve qu'ils sont vraiment convaincants que depuis un mois et demi. Je trouve que jusqu'à novembre, c'est pas génial.
Au Barça, je voulais rester encore sur Lionel Messi avant de passer au championnat. Gilles, peut-être juste sur son style de jeu qui a...
Alors effectivement,
comme il est au centre de l'équipe de toute façon pour tous les entraîneurs, en plus, on adapte le jeu autour de Messi, quelle que soit sa prouesse sur le terrain.
Pour deux raisons. Parce que c'est la star et que globalement, même si il a le sens du collectif, je vais y revenir, le jeu tourne autour de lui. N'oublions pas qu'il y a quand même son duel avec Ronaldo, il faut qu'il entretienne ses statistiques, parce que c'est souvent au nombre de buts que ça s'est fait entre eux. C'est pas toujours le palmarès qui prime en ce moment
même
pour
si
les
Cristiano
récompenses.
Même si Cristiano est parti en Italie.
Ben oui, vous voyez, pour les récompenses comme le Ballon d'Or, les statistiques individuelles comptent énormément. Donc Messi, il compte ça scrupuleusement. Mais aussi, parce que au niveau du tempérament, et là où je l'admire encore plus, c'est que c'est un maître tacticien. Parce que on se souvient de Messi, il part d'un point dans son terrain, il dribble 8 joueurs. Mais c'est un distributeur, passe décisive. C'est lui qui a fait briller quand même, c'est lui qui fait briller Suarez, c'est lui qui a fait briller Neymar. C'est lui qui réussit à reconstruire l'équipe quand Neymar s'en va. Donc Messi, c'est un très très fort connaisseur du football. Il y a le génie individuel, mais il y a aussi la place du maître tacticien dans l'échiquier de Barcelone, qui contrairement à ce qu'on croit n'est pas, on se jette tous à l'attaque. Tout est étudié, le jeu de passe, le jeu de mouvement. Et pour ça, il est immense.
Alejandro, un petit mot?
Oui, non, simplement pour dire qu'on a du mal parfois à visualiser, c'est que ça peut être 400 buts. Si on faisait un film et qu'on mettait une minute par but, ça ferait pratiquement 7 heures sans interruption. Donc c'est un truc de fou, quoi.
Ça serait un très long film. François, David, une chose. Est-ce qu'à Barcelone, on a le droit d'envisager l'après-Messi?
Bah forcément, il faudra y penser, mais Messi a que 31 ans. C'est ça le plus impressionnant, c'est qu'il a que 31 ans, donc il a encore 5 ans pour moi de grand niveau au Barça. En plus là maintenant, vous l'avez dit, il joue pratiquement plus sur l'aile droite, c'est plus Dembélé maintenant qu'il joue sur l'aile droite. Jordi Alba, qui est un peu le côté gauche tout terrain, lui il prend tout le côté gauche et Suarez en pointe, mais si il joue juste derrière, donc il organise l'équipe, il en est à. Alors, notre maître tacticien, Patrick Julliard, disait 10 passes décisives. La Liga dit 11. Bon, il n'y a pas une grosse différence, mais il est quand même effectivement en tête.
Il a enregistré,
en tête
des, il a corrigé ses notes.
Oui, en tête des meilleurs passeurs. Surtout, Messi focalise toute l'attention sur lui de toutes les défenses. C'est-à-dire qu'il y a des images prises par les photographes où il est entouré de 6 joueurs en même temps. Donc il libère aussi totalement l'espace pour les autres. Et c'est là où il est vraiment très très fort. Et c'est là où son génie tactique, justement, comme disait Gilles, eh bien, se met en action. L'après Messi, je crois que c'est très difficile maintenant de l'envisager, surtout qu'il y a des échéances hyper importantes là, dans les 3-4 années à venir. Je ne sais pas s'il pourra faire un dernier mondial, je pense que oui, qu'il fera un dernier mondial au Qatar avec l'Argentine. Mais là, la priorité absolue, c'est la Ligue des Champions. Le Barça ne peut pas encore être ridicule une quatrième année de suite en Ligue des Champions, et on voit que Messi, c'est son objectif. Il l'avait dit au trophée Gamper, c'est le trophée qui ouvre traditionnellement l'avant-saison au Barça au Camp Nou. Il avait pris la parole en public, chose qu'il fait assez rarement. Il avait dit que la Ligue des Champions, c'était un objectif prioritaire cette saison.
Alors justement, François-David, le Barça, grâce à Messi et à tous les autres, ça va très bien. Donc on disait c'est 17 buts en 17 matchs pour ce qui est de Messi. Mais les Blaugrana creusent déjà l'écart. Ils sont en tête de cette Liga. Ils sont champions d'hiver avant même le véritable milieu du championnat, puisque c'était avant la 19e journée. Et les voilà donc 5 points d'avance sur le deuxième qu'est l'Atlético. Comment cette équipe justement qui vise, alors elle aura peut-être le championnat de Liga, mais qui vise aussi cette Ligue des Champions, comment s'organise-t-elle? Elle recrute plutôt jeune, on en a parlé de la semaine dernière, on l'a évoqué, ce Jean-Claire Todibo, futur défenseur, mais qui n'a que 19 ans. C'est une autre manière peut-être de renforcer l'équipe, de la rajeunir en prenant son temps?
Oui, bah c'est un tournant en fait depuis cet été, principalement depuis l'arrivée d'Eric Abidal. Moi, je l'avais vu déjà Abidal, il m'avait expliqué un petit peu ça. C'est que maintenant, lui, il recherchait des joueurs pour les 10 prochaines années au FC Barcelone. Eric Abidal est le nouveau directeur sportif du Barça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris Arthur, qui a 22 ans, le Brésilien, Malcolm, 21 ans, l'Anglais, 23 ans. Ils ont pris Todibo, 19 ans. Ils veulent Rabiot, 23 ans, Frankie de Jong, 20 ans, ou De Ligt, le capitaine de l'Ajax, qui a 19 ans. Donc, ils ont vu, en fait, depuis des années, enfin, quelques années, depuis 2013, en fait, le Real Madrid prendre l'avantage sur le terrain de la jeunesse. Des joueurs jeunes, prometteurs, qu'ils évitaient, le Real Madrid, de payer 150 millions, 160 millions. Des joueurs qui pouvaient prendre 20 millions, 30 millions. Voilà, des joueurs où ils pouvaient prendre un risque, en fait, de se tromper. Ah ben on l'avait vu ces dernières années au Real, et là on l'a vu tout récemment avec Vinicius, avec Rodrigo qui va arriver, avec Théo Hernandez, Odri Osola, voilà des jeunes comme ça. Et le Barça maintenant essaie de concurrencer le Real sur ce terrain-là, sur le terrain de la jeunesse. Je pense que c'est une bonne manière de... et d'une sportive et de deux économiques, parce que le Barça s'est pas encore remis des transferts de Coutinho 160 millions et de Dembélé 145. Ils se sont pas encore remis de ça, donc faut trouver des solutions. Le Barça a pas l'argent de peut-être d'autres équipes, même s'ils sont pas à plein. Oui. Hein, le Barça, mais je pense que c'est sur ce terrain-là qu'ils vont aller maintenant.
Mais Gilles, peut-être que ça peut illustrer aussi quelque chose à contrario, c'est la Masia, alors qu'il ne produit plus.
Exactement. Et la Masia, si elle continue à produire, n'est plus unique. C'est-à-dire que maintenant, on le disait là, tout le monde cherche des joueurs qui ont été préformés ou formés et se les arrache. Donc Barcelone se dit aussi en forme, mais il y a des concurrents qui nous guettent. C'est beaucoup plus coûteux parce que les joueurs déjà de préformation, ils sont repérés partout. Donc Barcelone n'en a plus le monopole. Il y a moins de joueurs qui sortent. C'est un peu le cercle vertueux s'est transformé en cercle vicieux. Et c'est vrai, il faut souligner aussi les échecs de tas de joueurs en matière de recrutement par Barcelone. Alors ils s'en remettent, ils sont pas les seuls, mais il y a eu plein de joueurs qui ne sont pas adaptés au système parce que c'est très compliqué. Voilà. Donc la formation qui ne sort plus, et quand vous faites venir de l'extérieur, vous n'avez pas toujours l'adéquation avec le jeu de Barcelone.
Pour expliquer les problèmes de la Masia, il faut rappeler aussi que la FIFA a introduit des règles beaucoup plus strictes en matière de présence des joueurs étrangers dans les centres de formation. Donc ça a limité aussi
la capacité de Barcelone. Il y aurait peut-être
plus d'autres Messi, c'est ça? À chercher un peu dans les autres pays ou dans les autres territoires espagnols des joueurs qui les intéressaient.
Mais après, moi, je trouve que c'est surtout ça, c'est aussi les failles au niveau du recrutement qui sont vraiment le point noir, parce que Dembélé, que ça marche ou pas au final, de toute façon, il a été payé une fortune par rapport à ce qu'il avait déjà fait dans sa carrière. Et là, François nous citait des exemples. Malcolm, quand on a vu le Barça se mettre sur ce joueur, personne n'a compris parce que il est pas réellement compatible avec le Barça et c'était quand même cher et on est, pour l'instant on est dans un échec, ça marchera peut-être mais pour l'instant on est dans un échec. Et Todibo, on nous le présente comme le nouveau Varane mais c'est complètement
lunaire. Il a 15 matchs de Ligue 1, garçon.
10 matchs de Ligue 1. Dire, et puis des Varane qui réussissent, il y en a un et tous les joueurs qui partent extrêmement tôt dans des championnats ou dans des clubs très huppés et qui disparaissent, il y en a aussi pléthore. Oui. Donc voilà, c'est un pari mais il y a absolument rien qui peut nous faire dire aujourd'hui que ça marchera le pari de Todibo.
Le Real Madrid, lui, n'a plus CR7 et lui aussi tente de rajeunir son groupe. La venue d'ailleurs du jeune Brésilien Vinicius Junior commence enfin à porter ses fruits mais ne masque pas les problèmes revus et constatés contre le Bestis à Séville durant le week-end où la victoire s'est faite vraiment à l'arraché dans les derniers instants du match. Isco, surtout, pièce maîtresse de Lopetegui il y a encore quelques semaines, a eu une moins bonne expérience avec Solari qui l'utilise fort peu, mais c'est seulement pour des raisons sportives, assure Santiago Solari.
Ce n'est pas une décision personnelle. Je déteste me répéter. L'équipe est ce qu'elle est et nous faisons tout notre possible en tant que manager et joueur. Tout le monde peut jouer. Ils font tous partie de l'équipe, je dis ça tout le temps, depuis le premier jour où je suis arrivé.
Isco, le caillou dans la chaussure de Solari, François David.
C'est même une pierre, c'est même un gros caillou
un
qu'on a maintenant parce que c'est le boulet totalement. Le dernier match contre le Betis, c'est Ceballos. Alors autre exemple de joueur jeune qu'ils avaient pris le Real Madrid il y a deux saisons, qui a marqué. Mais Isco, maintenant, n'est même plus le 12e homme, le 13e homme, le 14e homme, ni le 15e homme. Hein. Il ne rentre pratiquement plus maintenant. Isco, il rentre. Il joue lors des matchs de coupe, qui est la compétition la moins importante dans l'esprit du Real Madrid. Effectivement, il y a un énorme problème. Misco, on le voit, il fait une tête pas possible maintenant à chaque fois qu'il sort en zone mixte ou il passe devant la presse.
Mais parce qu'il est mauvais, qu'il n'est pas en forme, quelle est la raison pour vous?
Alors, officiellement, oui.
Oui, officiellement, on a entendu, mais...
Officiellement, non. Officiellement, il n'y a aucun problème avec Misco. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il a quelques kilos de trop. Mais bon, tout ça, ça peut s'arranger. Ça n'a pas plu à Solari, qui, je pense, ne trouve pas de place pour Isco dans ce système-là. Isco est un joueur qui aime bien la pausa, comme on dit en Espagne. Prendre son temps, contrôler, regarder, faire des bonnes passes. Il y a plus le style Barça, finalement, Isco, que le style du Real Madrid. Et dans le style de jeu que veut mettre Solari, c'est un problème. Mais ça va être un problème assez costaud dans les prochaines semaines.
Patrick Juillard.
La stérilité offensive du Real, en fait, inquiète beaucoup. Hein. Ça date pas de ces derniers matchs très poussifs. Mais depuis le début de la saison, le Real Madrid, c'est 5 matchs sans but en championnat sur 19. C'est pour dans l'histoire du Real, ça n'est sans doute jamais arrivé ou rarement. Et puis on voit pas trop où Solari veut en venir. Alors il peut très bien dire Isco ne me convient pas, mais enfin ce qu'on voit sur le terrain, moi ça me convient pas en tant que spectateur. Donc c'est compliqué, hein.
Gilles.
Et puis il y a quelque chose aussi, c'est que on parle souvent. La question c'est quelle est la part réelle de l'entraîneur. Bon, au Real Madrid, quand il y avait Zidane, il y avait des joueurs qui jouaient pas. Alors il les faisait jouer de temps en temps, ça sortait pas, il savait régler ça. Quand vous avez un entraîneur moins fort, alors là Solari il a fait des choix, mais Solari c'est pas Zidane. Solari vis-à-vis du vestiaire, excusez-moi, c'est rien. Dès qu'il fait un choix, le joueur fait la gueule, il est contesté. C'est pour ça que le Real ou Barcelone ont besoin d'entraîneurs charismatiques, forts, incontestés. Sinon, tout sort, et excusez-moi l'expression, c'est le foutoir.
Ça, rien ne va plus. Et surtout, ça salit une image. Alejandro.
Isco a un peu une tête des boucs émissaires, quelque part, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui n'est pas très populaire dans les vestiaires, qui ne résout pas les matchs à lui tout seul, qui a du talent, mais qui n'est pas forcément toujours facile à insérer collectivement. Donc Solari, qui a besoin pour s'affirmer de prendre une décision forte, quelle décision prend-il? Il met Isco sur le banc et ça lui permet quand même de montrer son autorité et en même temps de pousser d'autres joueurs à se surpasser, à essayer de ne pas connaître le même sort qu'Isco. Donc quelque part, le match du Betis lui donne raison puisque finalement Isco n'entre pas en jeu et le Real finit par l'emporter. Mais c'est vrai qu'il y a un problème Isco qui n'est pas nouveau, parce que même sous Zidane, il, à un moment donné, il avait le spleen et Barcelone avait fait semblant de vouloir l'acheter et du coup, il avait obtenu un très bon contrat au Real pour les blinder.
Sans blague.
Aujourd'hui, peut-être, il faudra tirer les leçons de tout ça et le laisser partir.
Karine. Oui, mais sauf que Solari a eu raison sur ce match-là, parce que ça s'est bien goupillé, parce qu'ils ont la victoire terminé, en fin de match. Mais au final, on sait très bien que lors du prochain match ou lors du deuxième match, il y aura exactement les mêmes questions, parce que les problèmes du Real Madrid sont constants. Ils existaient déjà l'an dernier, parce que la saison du Real Madrid n'était pas bonne en championnat. Elle a été sauvée par cette force qu'ils avaient en eux pour aller chercher la Ligue des Champions. Donc c'est le prolongement de ce qu'on avait l'an dernier, moins Ronaldo. Bon, bah de toute façon, ça pouvait que finir comme ça, c'est-à-dire dans une saison ratée, parce que là, j'y crois pas à la quatrième Ligue des Champions de suite.
Et puis, un petit point un peu annexe, mais le recrutement de Mariano Diaz, c'est un fiasco et... A contrario,
il est blessé pour l'instant.
Il est blessé, mais même quand il a joué ou qu'il a fait quelques apparitions, c'était pas brillant.
Ça.
Et à contrario,
belle vente d'Olas.
Je trouve, voilà, belle vente d'Olas, mais je trouve qu'il manque énormément à l'OL, par contre.
Une dernière question, François David, c'est au sujet. Alors, mon petit doigt me dit que Karim Benzema s'est blessé, c'est ça. Et s'est blessé, il s'est cassé l'auriculaire droit.
Oui, bah il a pas eu de chance, une mauvaise chute pour Benzema, alors alors que depuis on ira un mois et demi, il est vraiment très très bon Benzema. L'impression que la présence de Vinicius finalement l'a aidé, parce qu'il s'est délesté de cette pression médiatique qu'il avait comme étant un peu celui qui devait marquer des buts en l'absence de Ronaldo. Benzema aime pas trop être dans le feu des projecteurs, et la présence de Vinicius finalement lui allait pas trop mal, lui allait bien. Il se mettait presque à disposition maintenant de Vinicius dans son rôle un petit peu élégant de faux numéro 10, numéro 9 et demi. Et bah là, c'est le coup dur, parce que il était bien, il avait lui la confiance de Solari. Et on va voir combien de temps ça va durer, mais bon, ça reste un joueur hyper important. Et cette année, contrairement aux autres années, je trouve moi qu'il court plus. Et il récolte l'adhésion totale du Bernabéu, et ça n'a pas été souvent le cas pour Benzema.
Oui, alors en tout cas, Alejandro, en plus, l'infirmerie, il y a du monde, parce que Gareth Bale, après on a Asensio aussi qui y est, Kroos, ça n'arrange pas du tout les affaires du Real Madrid dans ce moment délicat.
Bah non, mais souvent c'est comme ça, quand les choses vont mal.
La théorie des embêtements maximum, on connaît.
Mais bon, là, la seule chance du Real, c'est que tous ces blessés arrivent en début d'année, alors que les séances de Ligue des Champions sont encore relativement loin. Donc d'ici là, ça pourra éventuellement revenir. Après, comme le disait Patrick tout à l'heure, il y a un problème d'effectif qui n'est pas réglé.
Sur lequel on revient.
Il y a un problème défensif, il y a un problème offensif, il y a un déficit en but. Et ça,
je pense qu'il y a aussi une lassitude de tout ce groupe qui est en fin de vie, quoi.
Ils ont
fin
tout
de cycle.
Gagné.
Oui. Et résultat, on les retrouve derrière quand même dans le championnat, puisqu'ils sont quatrième ex aequo, et donc ils sont aussi...
Ex aequo avec Séville, et qui est leur prochain adversaire.
Exactement. Donc ça sera intéressant, et à noter donc bien la grande régularité de l'Atlético Madrid, qui se retrouve deuxième de ce championnat avec Antoine Griezmann qui continue à marquer. Et nous en reparlerons. Merci beaucoup François David, on vous laisse aller admirer Lionel Messi au Camp Nou qui marque des buts devant vous.
On va le voir d'ici quelques semaines en France, d'ici un mois. On va le voir à Lyon.
Oui, bien
donc
sûr.
J'espère que Karim sera là ce jour-là.
Oui, normalement, je serai à Lyon, mais honnêtement, j'ai plus envie de le voir marquer au Camp Nou que
Karim,
au Parc
pas tout avoir.
Oui, je sais. Vraiment.
Il faudra faire le match retour.
Mais peut-être que je suis un peu le chat noir de Lionel Messi. Il va aller donc au Parc OL et Messi ne marquera pas.
Alors, on va vous garder ici dans le studio.
Merci beaucoup. Merci François.
Ainsi, en 1919, naît avec l'Espérance sportive de Tunis la première véritable équipe nationale.
Lorsqu'elle est arrivée à se battre et lorsqu'elle a commencé à gagner ses premiers matchs, il y a eu un mouvement de sympathie énorme qui s'est greffé autour du club, et c'est ce qui a fait sa notoriété.
Oh.
les chanteurs de la Curva Sur, hein, de la, du virage sud, dans ce stade de l'Espérance Tunis. Alors, bon anniversaire, tous les espérantistes. Une 100e bougie sur le gâteau d'anniversaire du club des 100 et or de Tunis, l'un des plus connus de Tunisie et du continent africain. Un siècle d'histoire et un palmarès très récemment enrichi, vous vous en souvenez sûrement, c'était en novembre, d'une Ligue des champions d'Afrique. Voilà, ce joyeux anniversaire. La victoire de, en plus, symbolique peut-être, Patrick Juir, de l'Espérance de Tunis, c'est qu'elle a été obtenue sur le Al Ahly, qui est un autre des très grands clubs, d'Afrique, lui aussi avec un très beau palmarès, et qui a été créé un petit peu avant, parce que si le, l'histoire a commencé un 15 janvier 1919 pour l'Espérance de Tunis, les autres c'était en 1907, un petit peu avant.
Oui, c'est-à-dire que ça dépend un peu de la, de l'état d'avancement, de la décolonisation, en fait. Oui. C'est un signe, cette création de l'Espérance. Mais rappelons quand même qu'à l'époque où le club a été créé, donc au Café de l'Espérance, d'où son nom, dans le quartier de Babswika à Tunis, il fallait encore le sceau des autorités françaises pour
c'était
autoriser
le protectorat français.
Voilà la création du club. Donc c'est Louis Montassier qui représentait la France en Tunisie qui a apporté son
sceau,
pas son veto, mais ça au contraire son accord à la création du club.
Il a même été le premier président quelques semaines, disons, symboliquement.
Ce qu'on a entendu, c'est le but qu'a marqué Anis Badri. Alors c'est aussi un symbole, puisqu'Anis Badri, c'est un joueur qui est un binational, un joueur né en France, né à Lyon, formé en partie à l'OL puis au LOSC, et qui est parti, après un passage en Belgique, qui est parti jouer en Tunisie. Donc ça illustre aussi le rayonnement de l'Espérance, puisque le premier club dans lequel va jouer un joueur qui voudrait aller retrouver un peu ses racines, c'est l'Espérance. Il y a d'autres joueurs avant ce Anis Badri qui l'ont fait, et c'est vraiment très symbolique de ce qu'apporte ce club et du rayonnement. C'est-à-dire que c'est une famille, j'en parlais avant l'émission, j'en parlais avec Hossine Raged, qui est un joueur... lui formé au PSG, qui a aussi fait 4 ans à l'Espérance dans sa carrière, franco-tunisien également, international tunisien, et qui m'expliquait que quand on signait à l'Espérance, on entrait dans une famille et qu'on restait dans cette famille toute sa vie, puisque dans toute la Tunisie, il y a des fans de l'Espérance. C'est un peu comme la Juventus en Italie, c'est un club immensément populaire. Et où
on dit 3 millions de supporters en Tunisie, mais pas seulement.
À chaque fois que je prends un avion ou que je fais mes courses, je croise quelqu'un et un supporter, et ça n'arrivait pas forcément dans les autres clubs où il a joué, quand il a joué en Turquie ou ailleurs. Et ça, c'est vraiment
un signe.
Là,
on le salue en tant qu'espérantiste.
Voilà, on le salue en tant qu'espérantiste, en tant que membre d'une famille, et c'est... Bon, c'est quelque chose d'assez unique, et il me disait que la ferveur des supporters espérantistes, c'est unique, même en Turquie, où pourtant c'est un pays très chaud, s'il en est, en matière de soutien du peuple à ses clubs, ben c'est pas à ce niveau-là, et c'est vraiment unique, voilà.
Gilles.
Les grands clubs, ils incarnent aussi l'histoire de leur pays. On parlait de Barcelone, qui incarne l'histoire de l'Espagne, et surtout de la Catalogne.
Récemment, oui.
Mais oui, exactement, qui s'identifie. Et ce club-là s'identifie à l'histoire de son pays, mais à tous les niveaux. Footballistiquement, bien sûr, un palmarès incroyable, national.
28 titres de champion de Tunisie et 3 ligues des champions continentales.
Exactement. Donc vous avez le palmarès national et qui contribue au rayonnement international. Les changements tactiques qui faisaient débat à chaque fois dans les années 60, c'est un club qui est passé, alors l'exemple italien, qui est passé un peu au catenaccio, on se met tous à défendre. Ça avait fait des débats, ça a duré des années. C'est vrai. La politique aussi, c'est un club qui parfois a eu des vicissitudes parce que on l'a entre guillemets accusé, soupçonné. Voilà. Donc c'est des clubs qui incarnent les problèmes avec les supporters, magnifiques supporters, et puis parfois il y a eu des débordements
avec les ultras.
D'ailleurs, la CAF vient d'infliger 2 matchs à huis clos en raison de ces débordements à l'Espérance pour les 2 prochains matchs de Ligue des Champions.
Donc vous avez pour tous ces côtés positifs et ces quelques côtés négatifs l'identification de ce club-là à l'histoire de son pays. Donc c'est des clubs qui sont incroyables, et c'est pour ça que c'est au firmament du football africain et international.
Alejandro.
Oui, je pense que de toute façon, l'essence du football reste dans le club. Même si aujourd'hui, beaucoup des gens s'intéressent au football à travers les équipes nationales, c'est surtout ces grands clubs qui permettent au football d'un pays d'avancer, qui passionnent les jeunes, qui attirent les talents et qui permettent quand même au football de rayonner et aux équipes nationales. Oui. On voit que la Tunisie, si elle réussit sur le plan international, je crois qu'elle est premier pays africain ou deuxième au classement de la FIFA. C'est en grande partie grâce à ces grands clubs, le club africain, l'Espérance de Tunis, etc.
L'Étoile du Sahel.
L'Étoile du Sahel qui permettent à ce pays qui est petit par rapport à d'autres pays africain de jouer un rôle majeur.
Et je pense que la rivalité locale avec le club africain, puisque bon, ce sont pas les deux seuls clubs de Tunis, mais ce sont les deux clubs vraiment emblématiques auxquels les gens s'identifient, elle fait beaucoup.
Ça contribue à la légende.
Voilà, pour rendre les gens fiers de leur équipe, la rivalité avec le club africain, c'est quelque chose de capital, quoi. Hein, c'est.
Alors, à l'issue du dernier match de championnat, un feu d'artifice a été tiré. C'était un peu le coup d'envoi hein, des festivités qui commencent théoriquement officiellement aujourd'hui, en tout cas elles vont durer sur l'année. Il y a l'émission d'un timbre en Tunisie.
Il y a beaucoup de fumigènes, Noël Le Graët en ferait sans doute des malaises.
Le design aussi de cartes bancaires qui porteront le logo de l'Espérance. Et puis il y aura samedi à Tunis, à la Cité de la Culture, à la Maison de l'Opéra, et bien avec le président de la République Essebsi, et bien un gala en l'honneur de l'Espérance. Par contre, pour le match de gala, ils cherchent toujours un adversaire.
Ouais, et alors, par contre,
ils aimeraient aimer le Barça, le PSG, c'est pas encore
c'est
fait.
C'est ça. Étant donné que le calendrier africain a changé, qu'on s'aligne cette saison sur le calendrier européen et donc qu'on est en pleine phase de Ligue des Champions,
la
fête aura lieu en juin et non pas en janvier comme ça aurait pu être le cas.
En tout cas, il y a un comité du centenaire qui veut assurer surtout la transition, l'avenir de ce club qui y pense. Et c'est ce qu'a expliqué notamment Mahmoud Babou, un octogénaire, presque nonagénaire, au micro de Farouk Atou, le correspondant de RFI à Tunis.
Il y aura des festivités sportives, des festivités culturelles, de la musique, de la danse, des chants, il y aura de tout. Mais en fait, je préférerais dire que le comité de centenaire est constitué de trois catégories de personnes. D'anciens dirigeants qui sont là pour continuer à surveiller les valeurs nobles du sport. Une génération de dirigeants actuels qui sont en train de mener la barque de l'Espérance, qui sont en train de récolter des titres, qui contribuent bien sûr à cette légende de l'Espérance. Et ensuite, la dernière génération, celle qui va prendre les commandes du club et qui vont permettre à l'Espérance d'épouser le siècle.
Eh oui, et de fêter un bicentenaire dans donc 100 ans. Mais pour l'instant, ils en sont donc au fait du centenaire. Et il y a un excellent article dans France Football signé de notre ami Nabil Djellit, Espérance, la passion dans le sang. Mais écrit CENT, bien sûr, pour les 100
ans. Très bon papier, coécrit avec Dave Apadou, que je vous recommande chaudement, effectivement.
Autre camarade de Nabil qui sévit du côté de l'équipe télé où travaille aussi Karine. Et passons au dernier sujet du jour avec ce suspense autour de la prochaine Coupe du Monde.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Car les instances du football mondial sont réunies à Marrakech autour de Gianni Infantino, décidément le président de la FIFA aime beaucoup le Maroc, n'est-ce pas Alejandro ?
Oui, en plus son épouse est marocaine, voilà. Ce qui n'égage rien.
Notre réfé de temps en temps nous fait la
c'est
chronique.
C'est la rubrique People du chef, ouais.
Toujours, je lui laisse toujours la parole dans ce cas-là parce qu'il vérifie ses informations. En tout cas, au menu des discussions de ces instances du football mondial, il y a l'organisation, réorganisation de certaines compétitions et je pense au mondial des clubs. Mais il y a aussi, allez, on va dire, ce serpent de mer ou serpent des terrains qui est le nombre d'équipes à la prochaine Coupe du Monde. 32 ou 48 pour le Qatar 2022. Alors, les éliminatoires n'ont pas encore commencé et ça se discuterait encore, assure Gianni Infantino.
On va parler de la Coupe du Monde des clubs, ce qu'on veut faire. En même temps, on discutera aussi de la Coupe du Monde 2022 parce que... À partir de 2026, il y aura 48 équipes, comme vous le savez bien. Peut-être qu'on arrive déjà à avancer l'échéance et commencer déjà en 2022 avec 48 équipes. On écoutera nos associations pour voir un petit peu ce qu'elles en pensent.
Ce qu'elles en pensent. Alors, avant de vous passer la parole, rappelons juste une date. Le 5 juin prochain aura lieu l'élection ou réélection du président de la FIFA. Et donc, peut-être que cet argument peut avoir de l'importance dans la campagne. On voit bien que Gianni Infantino vient de faire une tournée en Afrique et qu'il pense à sa réélection. Karine Galli, 32-48, c'est pareil, c'est bien, c'est mal?
Ah non, 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 ça suffit. Moi, je suis absolument
je suis très provocante parce que j'imagine...
Je suis absolument pas pour ces Coupes du Monde où finalement, il y a tout le monde qui se qualifie. Là, on l'a encore vu cette année lors de la Coupe du Monde 2018. On a vu des équipes qui étaient extrêmement faibles. Quand on a pu voir le Panama, exactement.
Et on était qu'à 32.
Voilà, la Tunisie aussi qui était quand même extrêmement faible.
Un peu de respect pour la Tunisie, Karine.
Mais la Tunisie était quand même extrêmement faible, même si tu
les
apprécies.
La seule équipe qui a essayé de jouer contre la Belgique.
Enfin, il y avait des absents aussi, l'Italie, les États-Unis.
L'Arabie Saoudite, enfin, il y a des équipes qui, je suis désolé par rapport au match qu'on nous propose, ça n'a aucun intérêt. Et finalement, cette Coupe du Monde, en termes de jeu, bon, on est quand même resté sur notre faim. Et comme d'habitude, la phase de groupe est très souvent extrêmement faible. Et il y a des équipes qui se font ratatiner, qui finissent avec zéro point. Donc déjà qu'à 32, je trouve qu'on a des équipes qui sont très faibles. Mais à 48, ça n'a aucun sens.
Gilles,
pourquoi je suis pas d'accord du tout?
Alors, je me doutais que vous seriez pas d'accord.
C'est mon tropisme africain, je le reconnais. Et pourquoi le président de la FIFA, en ce moment, il est tout le temps en Afrique? Oui, parce que sa femme... africaine, c'est sûr, mais aussi parce que l'Afrique, c'est la plaque tournante de tout le dispositif.
Ils ont déjà dit en septembre dernier que la Confédération africaine de football, en tout cas ce qu'a dit le président Hamad, l'assurait de ses votes.
Mais attendez, le président Hamad a été élu avec Infantino, ils marchent ensemble.
Ouais, on était RFI.
Mais oui, et l'Afrique, là, a un truc formidable à jouer. C'est pour ça que moi, je veux qu'on passe à 48 tout de suite. Parce que si on passe à 48 tout de suite, l'Afrique est au cœur du système et il y aura plein de pays africains. Si l'Afrique se débrouille bien, ça va être la grande gagnante de tout ça.
Oui,
donc il faut 48 tout de suite et plein de pays africains. Il faut que l'Afrique revendique et pour une fois fasse plus de lobbying.
Mais on parle l'Afrique était présente en phase de groupe et il n'y en a pas une, par exemple, qui est sortie.
Mais pour entrer, il faut sortir, et pour sortir, il faut rentrer.
S'il y en avait 10. Dans un sens.
Mais non, mais s'il y en avait 10, au moins 3 sortiraient.
Non, voilà.
Mais justement, Karine, avec 48, le premier tour est raccourci, parce qu'on passe beaucoup plus vite à l'élimination directe, on crée les 16e de finale, donc on aura beaucoup plus de matchs en jeu.
Oui, mais alors moi, c'est mon problème, en fait, pourquoi je suis contre, c'est pas exactement pour les mêmes raisons, c'est que, quoi qu'on fasse, une année dure 365 jours.
Ça, c'est vrai.
Et la FIFA a beau être très puissante, elle pourra pas changer ça. Donc, si on continue de surcharger comme ça les calendriers, à la fois au niveau national, avec les multiplications des coupes secondaires, à la fois au niveau international, avec ce mondial des clubs qui est d'une inutilité totale,
pour
faire plaisir aux pays organisateurs...
La Coupe du Monde à 48 n'est pas plus longue qu'à 32.
C'est pas un problème de longueur, c'est un problème de...
qualité.
De durée... c'est un problème de nivellement et c'est un problème aussi d'excellence et d'intérêt des éliminatoires, puisque si on élimine moins d'équipes, les phases éliminatoires sont moins intéressantes et on va dégoûter les gens du football de sélection.
Il faut les repenser, ces phases.
Il faut les repenser. Moi, je serais pour qu'on, par exemple, en Europe, au lieu de la Ligue des Nations, on fasse un tour préliminaire entre les pays les plus faibles et qu'ensuite on ait des phases éliminatoires resserrées, qu'on ait ensuite des matchs amicaux entre pays de continents différents, mais on va exactement dans le sens inverse.
Mais je suis pas du tout d'accord, mais encore une fois, je repense à l'Afrique. Vous me disiez, oui, les pays africains ne passent pas. Mais les pays africains, c'est tellement drastique, la sélection tellement infernale pour émerger à la fin de tout le continent africain, les quelques pays qui sont qualifiés, qu'il n'y a pas de continuité. Vous avez très rarement des pays qui font 2, 3, 4, 5 Coupes du Monde.
Si, il y a le Nigeria.
Oui, il y a le Nigeria, voilà, ok, contre-exemple. Mais où vous pouvez progresser, vous améliorer, vous acquérir de l'expérience internationale. Donc quand vous êtes confronté à des pays sur d'autres continents, là vous progressez. Donc les pays africains ont besoin d'être plus nombreux, donc vive les 48.
Alejandro, juste pour terminer, 2026, c'est sûr qu'il y aura 48 oui. pays, hein, en Mexique, États-Unis, Canada. Là, est-ce que vous pensez que c'est qu'on n'en parlera plus le 6 juin, c'est-à-dire une fois que Gianni Infantino sera élu?
Non, je ne suis pas d'accord, parce que je pense
pour le
qu'Infantino
Qatar, hein.
n'a pas seulement des visées électoralistes dans ses calculs, il a aussi... Non, ils se rêvent aussi des grands diplomates capables de régler beaucoup de problèmes au Moyen-Orient et notamment d'associer le Qatar avec les pays voisins qui sont en conflit pour organiser une Coupe du Monde élargie ensemble.
Un défenseur de Gianni Infantino dans ce studio. Et Lionel Messi. Donc. Merci beaucoup.
Il n'en a pas beaucoup de défenseurs, Infantino.
Merci beaucoup à tous. Merci aussi à Pierre Guérin qui m'a aidé à préparer l'émission aujourd'hui. Laurent Salerno était à la réalisation et on vous donne rendez-vous demain.